Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anouk Grimbert. Bonjour Anouk Grimbert.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Anouk Grimbert, vous êtes comédienne, vous êtes peintre aussi. Je ne savais pas trop comment vous présenter parce que je trouvais que tout ça, c'était insuffisant pour vous dire. Je me disais, c'est nul de commencer comme ça. Alors j'aurais pu dire, vous êtes une grande amoureuse, j'aurais pu dire des tas de choses.
Mais comment vous le savez?
Parce que quand on a parlé, vous m'avez parlé d'amour tout de suite. Voilà, quand on a préparé cette émission. Comment vous présentez?
Je ne sais pas. C'est vrai que je suis comédienne depuis presque 50 ans. C'est fou, quoi. J'ai commencé ça par hasard. Des gens, des metteurs en scène, amis de moi, je suis la fille de Vinavert, et des metteurs en scène étaient là chez moi. Moi, je savais pas que mon père était écrivain. Donc, les gens qui étaient là, pour moi, c'était des gens. Et puis, je sais pas, ils ont dû me voir jouer à la poupée, au nounours, j'en sais rien, à quoi. Et d'une façon peut-être bizarre. Et ils m'ont dit, viens, viens faire du théâtre. Et c'était, je voulais pas du tout être actrice. Jamais j'ai rêvé ça. Mais dès que ça a commencé, j'ai eu l'impression que c'était la vie en mieux, que la vie c'était brouillon, et que grâce au texte, grâce à l'effort et la liberté des artistes, la liberté conjointe qui s'emboîte, qui s'embrase, tout ça, alors on pouvait non seulement réparer des torts de la vie, mais enchanter la vie.
Anouk Grimbert, vous avez choisi comme journée particulière un jour du mois de mars 1983. Ce jour-là, vous avez perdu la vue alors que vous étiez en train de jouer L'Ordinaire, une pièce de votre père, donc Michel Vinavert, mise en scène par Alain Françon.
L'Ordinaire. Personnage. Bob, 50 ans. Président de Houses. Bess, 47 ans, sa femme. Pat, 35 ans, sa secrétaire. Joe, 40 ans, vice-président de Houses, en charge de l'Amérique latine. Nan, 18 ans, sa fille. L'intérieur de la cabine de l'avion. Bess, Bob, Dick et Joe, autour d'une table, joue aux cartes. Pat, à une autre table, tape à la machine. Sur une couchette, Ed dort. Sur une autre couchette, Sue, allongée, lit un magazine, la tête sur les genoux de Jack, assis dans l'angle. Nan se fait les ongles des pieds.
Anouk Grimbert, c'était une lecture de Michel Vinavert au Festival d'Avignon.
J'ai pas reconnu sa voix.
Si,
c'est lui qui parle.
Ouais, c'est lui, c'est Michel Vinavert qui, donc votre père, qui est en train de lire donc cette pièce L'Ordinaire que vous étiez en train de jouer en mars 83 quand d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Ben, Pour situer un tout petit peu la situation que Vinaver explore dans ce texte, il s'est inspiré d'un événement qui a bel et bien eu lieu, qui est ce crash d'avion sur la cordillère des Andes, où une équipe de footballeurs...
De rugbyman...
Est resté là pendant des semaines, je crois, en attendant des secours. Et pendant les semaines où ils sont restés au milieu de nulle part, dans la neige, la lumière, certains étaient morts. Et ceux qui ont survécu ont survécu parce qu'ils ont mangé les morts. Et on peut imaginer toutes les questions qui sont passées par leur tête, leur cœur, leur corps, avant d'en arriver à là. Et Vinaver, lui, il a imaginé à partir de là une situation où je crois un chef d'entreprise, sa femme et puis
son staff
partent en voyage, je sais pas faire quoi. Et dans le staff, il y a une jeune fille qui est la fille d'un des du staff. Et cette fille, c'est moi qui l'a jouée. Et c'est pas parce que mon père m'a choisie du tout, c'est Françon,
le metteur en scène,
c'est Françon qui m'a choisie. Et puis, et c'était un des répétitions très très heureuses, très harmonieuses. Alors souvent de jouer les tragédies, c'est très marrant, c'est très, je sais pas, ça, bizarrement, ça donne beaucoup de joie humaine. Bref, c'était un spectacle qui se passait très bien. On jouait à Chaillot, et puis un soir, sans que je comprenne vraiment rien du tout à ce qui m'arrive, je ne vois plus rien.
Subitement,
en une fraction de seconde. Je sais plus si je voyais que du blanc ou que du noir, mais en tout cas, j'étais absolument aveugle. Et si vous pouvez imaginer un accouchement sans péridurale, là c'est comme si j'accouchais de 3 triplés en même temps sans péridurale, c'est-à-dire que l'œil, c'était atrocement douloureux, mais j'ai pas souvenir d'une douleur comme ça. Mais comme je comprenais pas ce qui m'arrivait et comme on jouait une situation extrême où des gens se débrouillent avec le peu qu'il leur reste, je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Et j'ai fini de jouer la représentation tout à fait aveugle, c'est-à-dire à tâtons. Je pense que les gens se disaient que je jouais, mais moi, je jouais. Et j'ai quand même pas pu aller saluer, parce que la douleur était telle. Et on m'a emmené très très vite à l'hôpital, des 15-20. Et là, bizarrement, les médecins qui se sont penchés sur mon cas ont vu que mon œil avait brûlé au 3e degré.
D'un coup,
ouais. Et ça, je me souviens qu'un des médecins disait, mais c'est tout à fait bizarre parce que un œil qui brûle comme ça, ça ne peut se passer qu'à une très très haute altitude avec la réverbération de la lumière sur la neige, ou en tout cas d'où ça vient, quoi.
Bon, et alors que vous étiez en train de jouer un personnage qui était
sur la cordillère
des Andes en hiver dans la neige,
voilà. Mais bon, je suis sortie de ce rendez-vous les yeux bandés et on m'a dit, ça sera fini de voir, tu es aveugle. Et alors d'un coup, je perdais la vue, je perdais mon autonomie. J'étais partie depuis déjà pas mal d'années.
Vous aviez 20 ans.
J'avais 20 ans, mais ça faisait longtemps que j'étais déjà autonome. C'était fini aussi de jouer la comédie. C'était d'un coup fini de faire ce spectacle. Et comme parfois les gens qui ont un grave accident de voiture, une des pensées qu'ils ont, c'est pas pour eux, c'est pour la famille. Et je me souviens d'avoir pensé, merde, mes copains, je les fous dans la merde. Et du jour au lendemain, voilà, j'ai tout perdu, mais très étonnamment, sans que rien ne me prépare à ce second événement qui a immédiatement suivi cette perte de la vue, c'est que Donc mon père m'a pris chez lui, puisque je ne pouvais plus me débrouiller seule. Il m'a pris chez lui en attendant qu'on trouve une autre solution. Il m'a pris chez lui, ça a duré au moins 2 mois, mais très étonnamment, à partir du moment où je suis devenue aveugle, est tombée sur moi une paix qui n'était pas mystique, qui n'était pas... rien ne m'y avait préparé, parce qu'en général, quand on perd quelque chose, on le vit comme une perte. Et là, je l'ai vécu comme un gain.
Alors, on va y revenir longuement, à Anouk Grimbert. Et pendant ces jours où vous avez vécu chez votre père, parce que vous avez bien sûr retrouvé la vue, heureusement.
Mais je ne le savais pas.
Vous ne le saviez pas.
Non, je
ne
le savais pas.
Vous étiez dans le silence et la seule musique que vous entendiez était celle que votre père écoutait. Et c'était du Bach, interprété par Dino Lipati. Voilà ce que vous écoutiez certainement Anouk Grimbert pendant ces jours.
C'est quelqu'un qui écoute beaucoup Bach. Je me souviens aussi que, aussi délicatement que ces quelques notes de piano, sans doute il disait quelques mots tout doux. Ce qui était assez miraculeux aussi dans ces jours passés ensemble, c'est que il n'y avait aucune culpabilité de sa part, aucune. On était vraiment de façon à la fois consciente et muette dans la conscience que quelque chose d'en fait très intéressant arrivait.
Oui, ça revient d'ailleurs à ce que vous disiez sur cette espèce de grand calme, de grande paix que vous avez ressentie.
La paix, j'ai jamais bien compris. Enfin, si. Disons que ce que j'ai cru, puisque je ne voyais plus, qu'on ne me voyait plus.
Ouais.
Et ça, c'était le pied. Ça, c'était bizarrement une espèce de libération, comme si mon âme, je ne sais pas si ça existe l'âme, mais disons si ça existe, mon âme était libérée. libérée du regard des autres. Je sais bien dans la vie qu'on a besoin du regard des autres pour être légitimée. Mais parfois, le regard des autres, ils sont aussi des amarres. Et là, je sais pas, j'étais comme dans Bach.
Comme dans Bach.
Comme dans Bach.
Je comprends et tout après, à fait ce que vous après, êtes en train de dire.
Après, la chose bizarre, on m'avait dit, tu verras plus, tu seras aveugle. Bon, ok, les gars, ok. C'était et les médecins se sont un peu pas acharnés sur moi, mais en tout cas cette histoire les a un peu intéressés. C'était mystérieux pour eux, quoi, ce qui m'était arrivé. Et en quelques mois, j'ai retrouvé la vue. Et en retrouvant la vue, ben c'était bien. Je revoyais les arbres, le ciel, les gens, mais je sentais que j'étais en train de reperdre Bach. Et depuis cet événement où je suis redevenue complète, je ne cesse d'essayer de me souvenir ou de reconvoquer ce souvenir en moi où j'étais libre.
Alors, il y a un homme, un écrivain dont vous m'avez parlé, Anouk Grimbert, quand on a préparé cette émission un peu ensemble au téléphone, un écrivain que je ne connaissais pas, qui lui a décrit la cécité non pas comme un vide, mais comme du plein, et qui vous rejoint à certains endroits, c'est Jacques Lucéran, qui a été aveugle à l'âge de 8 ans. Il disait que pour lui, la cécité, ça avait été une chance. Et là, on va l'entendre interrogé par Pierre Desgroupes en 1953.
Ce que j'ai éprouvé, c'est un profond changement, c'est vrai. Je ne voyais plus à l'aide de mes yeux. Mais ce changement n'a pas été un appauvrissement, au contraire. J'ai constaté que d'autres réalités, ou plutôt d'autres façons de voir la réalité, m'apparaissaient tout à coup. J'avais en particulier conservé, très très vivante en moi, le souvenir des couleurs. Ces couleurs, au lieu de me quitter, sont demeurées en moi, au point qu'elles se sont mises à vivre dans toutes les parties de mon existence et à s'appliquer parfois à des objets auxquels les voyants ne les appliquent pas.
Vous attribuez certaines vertus morales à votre cécité. J'aimerais que vous exposiez de quelle façon ce schéma peut se faire dans votre esprit.
En effet, je ne pense pas que si je n'avais pas été aveugle, je serais entré à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire tout de même très tôt, dans des activités de résistance. Et cela, pourquoi ? Parce que ma cécité m'avait donné une chance, je crois, qui était de faire un bond très brusque dans ma vie intérieure et d'apprendre aussi à regarder tous les événements que je vivais du dedans, si je puis dire. Aussi, lorsque la France a été occupée par l'Allemagne en 1940, j'ai senti que des valeurs humaines étaient mises là en jeu, qu'il fallait par n'importe quel moyen défendre. Et cela, c'est justement parce que mon attention avait été cristallisée sur la signification morale, intérieure, de toute chose, par ma cécité même, qui me permettait de ne plus avoir cette distraction si naturelle aux voyants.
Anouk Grimbert, je vous vois hocher de la tête. Vous comprenez parfaitement ce que dit Lucéran.
Enfin, mon expérience à moi, elle est si mineure à côté de la sienne. Mais moi, j'ai découvert ce livre il y a 2 ans, donc 30 ans après ce petit événement qui m'est arrivé. Mais ça, c'est sûr que quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que non seulement tout ça ne m'était pas étranger, mais que c'est comme s'il mettait des mots sur une expérience assez indicible et à vrai dire dont j'ai jamais parlé dans ma vie, parce que je suis, comment dire, dans les sociétés primitives, on reconnaît la qualité d'un homme à sa capacité à se taire sur les choses essentielles. Et faut pas dire ses secrets. Si on les dit, on risque une sorte d'hémorragie de son être. Et faut pas. faut pas, parce qu'on a besoin de son être. En plus, parce qu'il faut pas faire la publicité de nos expériences privées, quoi. Mais en tout cas, ce Luceron, il est quand même trop dingue, quoi. Il était donc aveugle. Et il est entré dans la résistance et il a été choisi parmi les résistants pour être celui qui pouvait voir ceux qui seraient des solides résistants et ceux qui seraient potentiellement des traîtres. Et c'est lui qui sentait, et... Bon, après, il raconte dans ce livre incroyable qui s'appelle Le Monde commence aujourd'hui.
Ouais.
Il raconte aussi, après, il est passé dans les camps, il a été dénoncé.
Déporté.
Et comment, avec cette espèce de lumière qu'il avait à l'intérieur et qui peut-être vient de celle qu'il ne recevait plus de l'extérieur, avec cette lumière à l'intérieur, il a traversé cette période des camps avec une espèce de bonne humeur et d'amour, en particulier pour les gens non savants, pour ceux qu'on prend pour des idiots, ceux qui sont des presque rien et qui sont des fontaines.
Alors Anouk Grimbert, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que depuis ce jour de mars 83, vous ne cessez d'interroger ce sentiment de liberté que vous avez éprouvé dans la cécité. Et vous allez me dire si je me trompe, j'ai l'impression que par exemple, vous avez beaucoup réfléchi sur la liberté et l'enfermement. Parce que la cécité, on peut le voir aussi comme un enfermement et pas, comme le dit Monsieur Luceron, comme un monde intérieur, une ouverture. Et je me disais, est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a quelques années, vous avez travaillé sur les lettres de Rosa Luxembourg pour essayer de comprendre cette liberté qu'on sentait dans ces lettres alors qu'elle était emprisonnée pour s'être opposée à la guerre de 14-18 ?
Ouais. Vous savez, quand je fais des choses, quand je me balance dans un travail qui peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans, au début, on ne sait pas pourquoi on le fait. On est irrésistiblement aimanté par quelque chose, et ce quelque chose va se mettre à parler, mais petit à petit. Un jour, quelqu'un que j'ai rencontré m'a offert les lettres de prison de Rosa Luxembourg. Moi, je suis pas une fille qui a un grand appétit pour la chose politique. Donc je me suis dit, il me donne un truc qui... C'est comme si on donnait un poisson à une girafe, ça va pas. Et j'ai mis un peu de temps à le lire et quand je l'ai lu, j'en suis juste pas revenue. Et j'en suis d'ailleurs jamais revenue. C'est là encore, je vais juste très vite donner la situation. Ouais. Rosa Luxembourg, c'était une socialiste. Elle a été mise en prison, dans différentes prisons, simplement parce qu'elle est une des très très rares à s'opposer à la guerre de 14. Et elle a donc passé ces quelques années en prison. Et pendant toutes les années qu'elle a passé en prison, elle n'a cessé d'écrire à ses amis des lettres qui les incitaient à rester de bonne humeur, à rester vaillant, à rester curieux.
À croire en la vie.
À croire en la vie, mais c'est pas bisounours ça.
Non, non.
Je pense que je suis assez époustouflée par les gens qui, dans des situations d'enfermement, s'avère la vie même, s'avère l'amour même. Et Rosa et Luxembourg, elle était incroyablement... c'était un aigle politique, mais contrairement aux aigles politiques qu'on connaît et qui nous entourent, elle était très cultivée. Mais c'était pas seulement... Elle connaissait tout de la littérature... anglaise, allemande, française. Quand je dis connaissait tout, c'est-à-dire elle connaissait tout par cœur. Mais par cœur, ça ne veut pas dire par l'école, c'est par le cœur. Son cœur avait été éduqué par Goethe, par Molière, par Shakespeare. Elle connaissait aussi tout des oiseaux, elle connaissait tout des arbres, elle connaissait la géologie, elle connaissait... Et ce qui n'est pas non plus rien, c'est qu'elle avait un sens de l'amitié. Incroyable. Et là aussi, c'est si frappant, c'est que en général, les gens très puissants intellectuellement, les élites, ils ne se sentent bien qu'avec l'élite. Les grands avec les grands, les petits avec les petits, les éduqués avec les éduqués, les ignares avec les ignares. Elles non, elles non. Et une petite femme de rien du tout, ou un petit homme de rien du tout, qui avait juste dans ses yeux la bonté, elle passait sa... La politique, chez elle, était entièrement irriguée par un sens de la vie. Et en fait, souvent, quand on se dit, mais putain, c'est quoi la gauche, quoi ? À force d'être avec des gens qui la tordent tellement, qui les sort tellement, dès qu'ils sont au pouvoir, qu'on se dit, mais attends, c'est quoi, quoi ? C'est quoi ? De quoi ça cause ? En fait, ça cause d'un truc, ça cause de quelque chose qui touche à tout dans la vie. C'est une manière de, pas seulement de parler, mais de penser, d'agir. Par exemple, Rosa, en prison, elle avait une toute petite, petite courette. Et dans cette toute petite courette, il y avait un oiseau avec qui elle était devenue amie. Et elle faisait les promenades, aller-retour, sous la pluie, sous la neige, avec cet oiseau. Et jamais elle marchait sur les miettes de l'oiseau. Ça, c'est la gauche.
Justement, je vous propose d'écouter, vous m'avez surprise, je vous propose d'écouter une lettre, justement, que vous dites à Anouk Grimbert, où elle parle de cet oiseau.
Ok. Ma Sonioucha chérie, votre chère lettre est arrivée au bon moment hier. Elle et le soleil qui brille depuis 2 jours ont fait tant de bien à mon âme blessée. Ces derniers jours, mon cœur souffrait beaucoup, mais maintenant, ça ira mieux. Si seulement le soleil voulait bien rester encore un peu. Ces temps-ci, je suis dehors presque toute la journée. Je flâne au milieu des buissons. J'examine chaque recoin de mon petit jardin et je trouve toutes sortes de trésors. Hier, j'ai rencontré, devinez qui ? Un papillon citron, tout neuf, étincelant. J'en ai été si heureuse que mon cœur a fait des bonds. Il est venu se poser sur ma manche. Je porte un gilet mauve, c'est sûrement la couleur qui l'a attiré. Puis, il a batifolé dans les airs et s'est envolé par-delà le mur. Mais... Je dois sans doute être malade pour que tout me bouleverse si profondément. Ou alors, savez-vous ce que c'est ? J'ai parfois le sentiment de ne pas être un vrai être humain, mais plutôt un oiseau ou quelque autre animal qui aurait malencontreusement pris forme humaine. Au fond de moi, je me sens bien plus chez moi dans un petit bout de jardin comme ici ou dans la campagne entourée de brins d'herbe et de bourdons que... dans un congrès du parti. À vous, je peux bien le dire tranquillement. Vous n'irez pas tout de suite me soupçonner de trahir le socialisme. Vous savez qu'au bout du compte, j'espère que je mourrai à mon poste, dans un combat de rue ou au pénitencier. Mais mon moi le plus profond appartient davantage à mes maisons charbonnières qu'aux camarades.
Il s'agit d'une lettre adressée à son amie Sonia Liebknecht, qui était sa grande amie et dont le mari était un camarade de Rosa Luxembourg, lui aussi emprisonné et au bagne. Je voulais vous poser une question, Anouk Grimbert. Dans l'introduction du recueil de ces lettres de Rosa Luxembourg, vous dites que les gens, quand vous avez joué ce spectacle sur scène, quand vous avez dit ces lettres sur scène, que les gens pleuraient dans la salle. Les gens pleuraient quoi ?
Mais je crois qu'ils pleurent de retrouver la gauche. Je crois qu'ils... Et c'est pas rien. Parce qu'en fait, ils pleurent de retrouver l'humanité. Donc, ils pleurent... c'est comme se baigner dans un lac quand on a chaud.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free, like the worm like a night from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden cross. Said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for? Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Jusqu'à 15h, c'est la journée particulière d'Anouk Grimbert en mars 1983. Anouk, vous êtes devenue aveugle et vous l'êtes restée pendant 2 mois. Et paradoxalement, comme vous nous l'avez expliqué, la cécité vous a donné une grande liberté, la liberté de ne pas être vu. Et alors je me suis demandé si c'était pour ça, pour retrouver quelque chose de cette liberté que plus tard vous êtes mise à peindre.
Non, ce qui est sûr, c'est que quand on dessine, on est bizarrement à la fois le regard et comme un fauve, ou comme un cheval blanc qui court dans tous les sens, il est libre. Et vous savez, quand on est comédien, on vous dit d'aller à droite, à gauche. Parfois, on vous dit comment penser. C'est un exercice que j'adore, mais c'est plein de lois auxquelles il faut obéir.
Et de docilité.
Non, je dirais pas ça. Les bons metteurs en scène, ils attendent que vous soyez une vraie alliée et que vous soyez libre. Mais ça n'empêche qu'on n'est pas seul et on va pas où on veut parce que c'est un sport d'équipe. Et c'est en ça que c'est merveilleux, quoi. Le dessin, c'est quand même beaucoup plus solitaire. On est tout seul, des heures, muet. Ça se passe sans mots. Et là, si tout se passe bien, on dessine pas seulement avec les yeux, nos yeux officiels.
Mais quand vous parlez des yeux de devant et les yeux de derrière.
Oui, alors les yeux, c'est parce que c'est un peu maladroit, mais disons que j'ai comme l'impression que les yeux de devant, c'est les yeux officiels, c'est les yeux qui font que cette table que je vois, elle est comme la table que vous voyez. Et si je ferme un peu mes yeux de devant, et mes yeux de derrière s'ouvrent, et là, peut-être, je vais voir autre chose. Et cette autre chose, si on ouvre l'écluse, si on se laisse la liberté, pas seulement de le voir, mais de le transcrire immédiatement dans le dessin, sans réfléchir, sans juger, sans trop de contrôle, c'est un mélange à la fois de voyance et de cécité, au sens où on se déconditionne le regard.
Alors il y a une femme avec qui vous parlez pendant des heures d'images, de vos images, de vos dessins et des siennes d'images. C'est la photographe Sarah Moon, qui est une de vos grandes amies, une grande amie, Anouk Grimbert. Et il se trouve que vous nous avez offert un extrait de ce qui se passe dans votre cuisine quand la nuit vous décidez de parler d'images avec Sarah Moon.
Si je fais un portrait en double exposition, clac, si les gens bougent à peine, ils respirent. Comme j'ai des très longs temps de pause, ça donne cette espèce de respiration sur les portraits, tu vois, quelquefois.
Mais c'est ton astuce pour attraper la respiration du réel.
C'est le minuscule mouvement des choses, tu vois, parce que je le fais pas beaucoup, mais c'est le tremblement. S'il y a quelque chose toujours de pas définitif, j'adore ça.
Mais quand il n'y a pas cet imperceptible tremblement dans tes images, tu as l'impression que ça vit pas.
Avec l'argentique, j'ai pas jamais cette impression que ça vit pas. Maintenant, avec le numérique, oui, j'ai l'impression que c'est du papier glacé. C'est un réel, mais c'est pas réel. Je pense que, si tu veux, le réel est pas comme ça, tu vois. Je veux dire, c'est le réel superficiel. Voilà. Oui, c'est le réel superficiel. J'essaye que ce soit pas juste en passant, tu vois. J'essaye que tu vois, d'abord parce que, comme moi je travaille avec des longs temps de pause, je vois longtemps, tu vois. Je vois longtemps quand je photographie. Je fais beaucoup. Et c'est quand je vois que j'ai attrapé
Un suspens.
C'est un suspens. C'est exactement ça. C'est un suspens. C'est le temps arrêté, probablement. C'est quand c'est beau le mot suspens, chérie. C'est très malin. C'est le temps arrêté, le temps suspendu.
Voilà un petit extrait de ce qui se passe à Anouk Grimbert dans votre cuisine avec Sarah Moon. En fait, toutes les deux, vous parlez de la création, de ce que c'est que créer.
Il y a 27 ans que je l'ai rencontrée. Il y a 27 ans que j'ai le cœur qui bat chaque fois que je vais la voir. Mais le cœur qui bat comme quand on va voir son amour. Et je sais qu'elle aussi. Et dès qu'on se retrouve, on court pour se serrer. Hier, par exemple, je l'ai vue et on ne pouvait pas se serrer, mais on était toutes les deux d'un bout à l'autre de la cuisine à tendre les bras. Et on riait. Et pourtant, la vie n'était pas marrante, mais on riait juste du privilège inouï d'être ensemble. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail ensemble, mais on parle du travail, on parle de l'amour, on parle de l'amitié. En fait, on peut parler de tout,
ouais.
Mais on ne parle pas de tout. Je pense que c'est la femme la plus raffinée intérieurement que j'ai rencontrée de ma vie. La plus généreuse, la plus solidaire. S'il fallait inventer le mot modestie, Et le mettre en or, il serait pour elle. C'est incroyable, parce que c'est une reine. C'est vraiment une reine dans son domaine, mais elle le sait pas. Et sans doute parce qu'elle le sait pas, c'est vraiment une reine. Moi, je pense que l'amour, c'est bien. L'amour, c'est bien. C'est vraiment une chance quand on rencontre ça. Mais aux Jeux Olympiques des sentiments, l'amitié, c'est tout en haut.
Anouk Grimbert, j'aimerais qu'on parle de votre dernier travail, de ce que vous faites en ce moment, de ce que vous auriez dû jouer sur scène s'il n'y avait pas eu le reconfinement. Ça parle encore et à nouveau de liberté, ça parle encore et à nouveau d'enfermement.
C'est le fil qu'on tire depuis le début de cette émission. Liberté, enfermement. Je voulais dire au passage que votre pull est magnifique pour parler de tout ça. C'est un pull ou c'est un personnage qui s'envole avec une nuée de ballons rouges qui vous emporte dans le ciel. Et ça m'a trop fait rire. Enfin, vraiment, ça me fait beaucoup rire que vous portiez ça aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces textes bruts que vous deviez et que peut-être vous allez à nouveau dire sur scène? Qui sont ces personnes qui ont écrit ces textes, ces lettres? Qui bah
là,
sont-ils?
Ouais. Alors, là encore, je vais reposer autrement très rapidement la situation. C'est ce qu'on appelle les auteurs bruts. C'est des gens que la société, la famille a pris pour fous. Certains parfois étaient malades, d'autres pas du tout. Ils étaient juste pas conformes à ce qu'on attendait d'eux. Et ils ont été placés dans des asiles psychiatriques. Parfois 40 ans. Et pendant 40 ans, certains d'entre eux, tous ne sont pas devenus artistes, mais certains d'entre eux ont transformé cette situation objective d'emprisonnement et de malheur, ils ont transformé ça en vivier créatif. Et moi, je crois que les gens, peut-être, ils ont compris, moi je m'intéresse pas aux prisons, je m'intéresse à la liberté qu'on trouve dedans, je m'intéresse pas à la... Enfin, je suis pas... C'est pas un livre sur la maladie mentale, la pathologie ou le malheur. C'est un livre sur l'énergie vitale qui peut jaillir parfois chez des gens. Et alors, le propre de ces artistes, c'est que ils n'avaient reçu aucune éducation artistique. Ce qu'ils produisent, que ça peut être de la peinture mais là c'est de la littérature, ça ne vient que du fond de leur cratère. Et au fond de leur cratère, contrairement à ce que les gens pensent des fous, au fond des cratères, des gens singuliers, il y a plein de lumière. Et il y a un amour de la vie, qui est peut-être même la raison pour laquelle on les a enfermés.
Bien cher fiancé, cher époux, dans l'attente et l'embellissement, je m'empresse pour venir t'écrire ces quelques lignes et venir m'entretenir quelques instants avec toi et correspondre avec enthousiasme et bonheur et prospérité, respect du plaisir au bien-être parfait, maintenant que je serai bientôt avec toi pour nous faire du bien au trou cul. Maintenant, puisqu'on est bientôt en famille et réunis pour le contact des deux époux, et pour se faire du bien, et pour se contenter un petit peu, et pour faire tout ce qu'on doit faire pour s'aimer et se caresser, et tout faire pour se faire plaisir dans l'embellissement et l'enthousiasme et le respect du plaisir au bien-être parfait et pour le trou du cul du bonheur de la prospérité. Maintenant que le printemps est bien là, viens me chercher au plus vite, du moment qu'on est bientôt en famille avec trois petits-enfants auxquels je suis très intéressée par le plaisir d'une bonne maman, bien nippée en velours natier. C'est une des couleurs que je préfère pour le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Du moment que je souffre terriblement du trou du cul, envoie de la laine beige claire pour te faire des chaussettes. Cela va toujours de mieux en mieux chez moi. Cela va du mieux possible. Envoie des gâteaux aux pommes, aux cerises, aux jus de cerises, aux vins cuits, aux pains de noix, aux oignons, à la courgette, à la crème salée, à la crème
Anouk Grimbert, c'est vous qu'on vient d'entendre dans la lettre de cette femme qui s'appelait Marguerite Pilonel.
Avec Nicolas Ropach à la guitare.
Absolument, qui a été internée, elle, pendant 4 ans, pas Nicolas Ropach.
Et on ne sait pas pourquoi, parce que elle a l'air gentille. Hein.
Ah, elle a l'air très gentille.
Elle a l'air très gentille, peut-être qu'elle a juste mal fait la rôtie et le mari, il a... Vous savez, c'était tout à fait commun de faire enfermer les gens pour des raisons absurdes, quoi.
Vous êtes une passeuse de ces textes, c'est ça que vous voulez nous faire entendre. Passeuse de ces textes et de ces personnes que vous appelez des lumineux.
Bon, je dis ça, il ne faut pas non plus oublier que c'est des gens qui ont traversé, pour certains, des grands désespoirs. Mais ceux qui, dans le désespoir, dans l'enfermement, dans l'incompréhension, dans tout ça, ceux qui ont jailli et qui ont inventé des langues, qui ont su parler la langue du cœur, la langue la plus brute, la plus pure, ceux-là, pour moi, doivent faire partie du monde. Ça doit être fini de les faire tomber du monde. Ces gens-là, c'est des frères, des sœurs, c'est des parties de nous qu'on a fait taire. Et vous savez, depuis que le livre est sorti, je suis si étonnée. Mais ça a fait la même chose quand j'ai fait le spectacle. Les gens pleuraient. Ils pleuraient, encore une fois, quoi ? Ils pleuraient de retrouver des pères, des mères, des sœurs, eux-mêmes. Ils pleuraient qu'un mur immense et qui dure depuis si longtemps entre les soi-disant fous et les soi-disant bien portants, ce mur-là... devenait tendre pour eux. Il y avait, au lieu d'un mur, il y avait un pont et on avait le droit de passer les fous vers les pas fous et les pas fous vers les fous. Et en fait, il y a une humanité commune et les fous, enfin, se comprend pour fous. Je ne sais pas si ces textes doivent entrer dans le grand domaine de la littérature noble, reconnue, et être adoubés comme des auteurs, comme tous les autres auteurs. Ce que je sais vraiment, c'est que c'est des auteurs qu'il faut, même si c'est une littérature à part, c'est de la littérature. Et ce que je vous disais, c'est que depuis que le livre est sorti, nous on pense... Le nombre de lettres que je reçois, d'ailleurs j'arrive plus à fournir quoi, franchement, mais le nombre de gens qui disent « je retrouve ma voix et où je retrouve de la joie, où je retrouve ou autre chose, c'est fini d'avoir honte ».
Trop en retard, on me dit pas trop vite, trop sauvage, marginal, mais j'ai choisi ma vie. Trop curieuse, trop heureuse, on me dit tout et tout son contraire. On me pousse, on me freine, moi je veux juste qu'on m'aime.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Anouk Grimbert, en 1983, donc je reprends quelques événements de l'année 83. D'accord, c'est comme ça que finit toujours l'émission. En 1983, la chanteuse Juliette est la révélation musicale de l'année. Elle, elle a quelque chose dans le ventre.
Ouais.
Le clip de Michael Jackson, Thriller, fait une petite révolution.
Trop beau.
Trop beau. Mais c'est la sortie de l'album Les Petits Mots de Dalida et entre autres de cette fameuse chanson.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène.
Anouk Grimbert, vous adorez Dalida?
J'adore, c'est ma copine.
C'est votre copine? Ouais. Vous dansez?
Je danse avec Dalida, je dessine avec elle, je fais le ménage avec elle, et puis je pense à elle. Je pense que c'est quelqu'un qui a été entouré toute sa vie d'un malentendu, et elle était sur scène avec sa choucroute sur la tête et ses robes en paillettes, alors que je pense que c'était une petite personne à l'intérieur avec un grand secret. Et elle a cultivé ce malentendu, pensant peut-être se protéger, mais je pense que ça l'a tué.
Je vous propose, avant de se quitter, d'écouter du Michaud.
Hein ?
Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre. D'autres préfèrent le monologue intérieur. Moi non, j'aime mieux battre. Il y a des gens qui s'assoient en face de moi au restaurant et ne disent rien. Ils restent un certain temps car ils ont décidé de manger. En voici un. Je te la grippe, toc. Je te le ragrippe, toc. Je le pends au porte-manteau. Je le décroche, je le repends, je le redécroche, je le mets sur la table, je le tasse et l'étouffe. Je le salis, je l'inonde. Il revit. Je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver, il faut en finir. Je le masse, je le serre, je le résume et l'introduis dans mon verre. Et jette ostensiblement le contenu par terre et dis au garçon « Mettez-moi donc un verre plus propre ». Mais je me sens mal, je règle promptement l'addition et je m'en vais.
Mes occupations de Michaud, lues par Muriel Mayette, ça résonne.
Mais elle le dit merveilleusement.
Et ça résonne avec ce que vous dites aussi, de la colère.
Mais je ne suis pas qu'en colère, mais non, bah, bon, il y a beaucoup de cons, quoi. Donc là, dans ce texte de Michaud, il leur fait la peau, en tout cas, il leur fait la peau dans sa tête à lui. Je crois que c'était un homme pas violent du tout, par contre, il était libre dans son expression, et lui était un fanat d'art brut.
Bon, Anouk Grimbert, on est obligé de se séparer. Ça fait une heure qu'on est ensemble, je vous remercie.
Mais moi aussi.
Votre livre, donc, ces textes, ce recueil de textes bruts, et pourquoi moi je dois parler comme toi, est édité au Passeur, éditeur Le Passeur. Est-ce que vous savez quand vous allez pouvoir le jouer à nouveau sur scène?
Non.
Non, vous ne le savez pas. Vous nous le direz?
Bien sûr.
C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique aujourd'hui Philippe Mercher. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Anouk Grimbert.
Merci à vous.